des livres plein les oreilles. On a beau savoir que c'est inéluctable, on a beau savoir qu'elle fait partie de notre vie. La mort, quand elle frappe un de nos proches, est une expérience traumatisante pour la plupart d'entre nous. Le deuil, ça ne vient pas avec un manuel explicatif. Quand on en a plein les bras de ce deuil, on fait comment ? Comment passe-t-on au travers ? Comment vivre sans l'autre ? Comment lui survivre sans que nous-mêmes nous nous empêchions de poursuivre notre route ? Serein malgré la douleur. Le manuel, en quelque sorte, il existe maintenant grâce à Louise Racine, qui, en 3 tomes, épluche minutieusement tous les aspects du deuil et nous donne des outils pour nous permettre d'accepter le deuil et surtout de choisir la vie après la mort de l'autre. Je vais donc en parler avec Louise Racine dans quelques minutes. Et puis rapidement, en seconde partie, je vais accueillir Faline Bobier du CAEB et puis nous ferons un petit clin d'œil à Frédéric Dard, alias San Antonio, histoire de rigoler un bon coup. Et en attendant, le deuil, passage obligé, et Louise Racine dans quelques instants au téléphone, juste après cette chanson de Grégoire et d'un extrait du livre.
Je ne crois pas que tu meurs, je ne crois pas que je pleure, non, je n'y crois pas. Je ne crois pas que tu t'en vas dans ce cercueil seul et froid, non, je n'y crois pas. Car je crois que tu es là, que tu marches auprès de moi, oui, ça j'y crois. Et je crois bien que tu restes à côté dans l'autre pièce, oui, ça j'y crois. Je ne crois pas à l'enfer de te voir là sous la terre, non, je n'y crois pas. Je ne crois pas au silence, à la peur ou à l'absence, non, je n'y crois pas. Mais je crois que tu es là, dans mon cœur, au fond de moi, oui, ça j'y crois. Je crois que tu me serres comme tu me serrais hier, oui, ça j'y crois. Oui, je crois que tu m'embrasses, que personne ne te remplace, oui, ça j'y crois. Et j'y croirai pour toujours tant qu'il reste de l'amour, oui, crois-moi. Je ne crois pas à la mort de l'esprit, même si le corps, lui, un jour s'en va. Car je crois bien que tu restes à côté dans l'autre pièce, oui, ça j'y crois. Et j'y croirai pour toujours, car ça ne meurt jamais l'amour, oui, ça j'y crois. J'y croirai pour toujours, car ça ne meurt pas l'amour, oui, crois-moi. Oui, j'y croirai pour toujours, car ça ne meurt jamais l'amour, et moi ça j'y crois. Oui, j'y croirai pour toujours, car il ne meurt pas l'amour que j'ai pour toi.
Les mots choisis pour évoquer le défunt, absenté, disparu, parti en voyage, démontrent bien notre difficulté à nommer la mort. Plusieurs endeuillés expérimentent cette difficulté, ce qui les empêche d'entrer dans la réalité de la perte et les entretient dans un imaginaire dans lequel la personne est encore là ou dans la croyance qu'elle reviendra. Ne pas mettre les mots appropriés sur la mort et ce qui l'entoure maintient la personne souffrante dans des mécanismes de défense tels que la négation, l'évitement, l'isolement et l'imaginaire. Pour toutes sortes de raisons, on ne veut plus parler de la mort. On détourne le regard quand on rencontre un directeur funéraire habillé de noir dans un corridor d'hôpital. On se questionne face à quelqu'un qui se spécialise dans le deuil. On grimace en apprenant qu'une jeune fille de 25 ans étudie pour être thanatologue.
Dans notre vie personnelle, on détourne le regard face à la mort en écourtant les rituels funéraires. On évite d'aller voir nos proches dans un centre d'accueil. On réagit face au vieillissement et on a honte d'être vulnérable face à la mort.
Bonjour Louise Racine.
Bonjour Clotilde.
Voilà, vous avez eu le droit à un petit extrait audio tel que je l'ai lu. Ben oui, on m'a demandé de lire ce livre-là, cette trilogie sur la mort. Moi j'ai l'impression, j'ai envie de vous dire, cette autopsie de la mort que vous nous faites et surtout du deuil et comment s'en sortir, nous qui restons. Mm-hmm. C'est exactement ça.
Hein? Mm-hmm. Oui, oui. Puis je veux d'abord vous dire que en entendant l'extrait audio par votre voix, ça a vraiment amené de la profondeur juste de vous entendre.
Ah ben merci infiniment Louise, oui. Mais le sujet était approprié aussi, je pense. Bon, moi j'ai une voix assez grave, alors c'est certain que on est allé me chercher aussi pour ça, mais ça me touche beaucoup. Mais si vous le voulez bien, je veux pas qu'on parle de moi, je veux qu'on parle de l'auteur. Alors oui. Très clairement. Louise Racine, dans cette trilogie-là, avec le premier livre qui s'appelle « Une blessure relationnelle », très clairement, tout de suite, vous nous faites part de votre souhait le plus vif de créer une relation avec le lecteur.
Mm-hmm, mm-hmm.
Hein? Le ton est donné, celui de l'empathie et de la compréhension.
Oui, oui.
Alors, vous êtes devenue thérapeute en aide. Ça, c'est une formation que vous avez suivie au CRAM, mais... L'empathie, la compréhension, c'est quelque chose que vous aviez déjà au fond de vous?
Oui. Hein? Je pense que c'est quelque chose qu'on doit porter naturellement. Quand je forme les thérapeutes à l'accompagnement du deuil, je leur dis, vous ne pouvez pas faire ça pour me ressembler parce que vous ne rejoindrez pas l'endeuillé. Vous devez trouver à vous, à l'intérieur de vous, votre fil intérieur de compassion, être branché sur l'être. C'est un travail que ça demande d'être. On a beau avoir des connaissances, mais le plus important, c'est tout ce qu'on porte à l'intérieur qui rejoint le cœur de l'endeuillé. Et c'est ça qui le nourrit. C'est pour ça que le relationnel va venir combler le vide que l'endeuillé porte à l'intérieur. C'est d'être consolé, réconforté. Il n'y a rien d'autre que je connaisse qui remplace pour combler le vide.
La mort, le deuil, on n'y échappera pas. Quoi qu'il arrive, ni à la nôtre, ni surtout à celle de ceux qui vont nous encadrer, nous entourer dans le cours de notre vie. Et ça peut toucher des jeunes enfants, ça peut toucher des personnes âgées, peu importe, on est entouré. Ce que vous nous proposez dans le livre, il me semble, Louise, c'est de bien comprendre que le deuil est un processus de guérison relationnelle. Donc déjà, si on parle de guérison, c'est parce que forcément, il y a quelque chose à guérir. Hein? Et vous me parlez de... Qu'est-ce que vous entendez par le processus de guérison relationnelle?
Aujourd'hui, je vous dirais que à partir de ça fait plus de 10 ans que j'ai écrit le livre, je transforme même le mot guérison en l'appelant le processus d'apaisement.
Ah!
Parce que le processus de deuil, ça peut prendre pour certaines personnes toute une vie à le traverser. Mais le processus s'apaise quand on suit les étapes. Les étapes, ben ça va être justement le ressentir ce qu'on vit, l'exprimer, ressentir les manques. Un peu comme j'ai dit dans le premier livre, il y a des exercices à faire. Et ne pas passer à l'action dans le deuil, je le dis dans le livre, ça passera pas tout seul. Ça passera pas avec la croyance que dans un an, je vais être rendue ailleurs. Si on fait rien dans notre processus de deuil, si on n'est pas actif dans notre processus de deuil, ça ne passera pas.
Et il faut en quelque part, non pas l'affronter, c'est le mot qui me vient, mais je déteste ce mot-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est un passage obligé. Si on met une couverture là par-dessus, par exemple, on connaît des gens qui mettent une couverture par-dessus, puis allez, et puis on retourne travailler parce que finalement, ça me fait du bien, ça me vide la tête. À un moment ou à un autre, ça risque d'exploser, non?
Oui, tout à fait.
C'est pour ça qu'il faut.
Il y a des gens qui consultent 25, 30, 40 ans après parce que ce que ça a pu apporter, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à se créer une nouvelle vie heureuse. Ils sont restés à vivre dans le passé. Alors, ils n'ont pas fait le deuil. Et moi, c'est tout ce qui donne un sens à mon travail. c'est parce que je sais qu'au bout du processus, c'est pour être plus heureux.
Oui.
C'est pour se créer une nouvelle vie. Alors, c'est ça qui donne un sens d'accompagner les gens vers ça.
Il y a un sujet, à un moment donné, que vous abordez qui m'a semblé très intéressant. Vous dites que nommer la mort permet d'entrer dans l'intimité.
Mm-hmm.
Savoir parler de la mort à nos enfants.
Mm-hmm.
La plupart du temps, vous déplorez qu'on déguise l'idée de la mort et de l'absence derrière des images, derrière du non-dit. Vous pensez que ce n'est pas une bonne idée, n'est-ce pas?
Non, parce que l'impact que ça a, même dans les familles, c'est que ça divise les gens, ça crée un fossé entre les enfants, les parents, les grands-parents. Moi, je trouve que c'est une responsabilité qu'on a tous de garder des liens.
Oui.
Pour qu'on puisse se parler de la mort, qu'on puisse apprendre à nos enfants à la nommer, à la voir. C'est sûr qu'il y a un malaise, puis c'est ça mon travail, c'est d'aider les gens à mettre des mots, à faciliter qu'on en parle. C'est un héritage précieux à nos enfants de parler de la personne qui est décédée. Moi, je raconte dans mon livre, quand mes petits-enfants n'ont pas connu ma mère, mais ils l'ont connue parce que je leur en ai parlé au temps des fêtes en cuisinant les recettes
oui.
de ma mère.
C'est touchant, ça.
Oui, puis mes petits-enfants, pendant ce temps-là, on parlait de mamie Irène, qu'ils ont même pas connue, mais pour moi, c'est un héritage à leur laisser. Ils l'ont connue par ses recettes.
Vous émaillez chacun des trois livres d'énormément d'outils. Et alors, il y en a, et d'ailleurs, vous l'expliquez très bien aussi en début de chaque livre, on va réagir de façon différente à vos propositions selon notre personnalité.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'il y a quelques outils sur lesquels il y en a peut-être qui vont passer par-dessus, et c'est pas grave. Le principal, vous, dans votre démarche, c'est que quelque part, vous parveniez à rejoindre le monde et que quelque part, un outil soit le bon. Par exemple, le journal pour les uns. Par exemple, la méditation pour les autres. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est ça, c'est votre souci de vous adresser à tout le monde, quel que soit leur âge et quel que soit le niveau du deuil.
Oui, c'est vrai que le deuil, c'est tellement personnel.
Oui.
Parce que ça va dépendre de notre lien avec la personne et ça va dépendre comment nous, on vit
oui,
des épreuves comme la mort.
C'est vrai, oui.
Et c'est souvent, moi, je me rappelle d'exemples précis où une famille était venue me voir, le papa, la conjointe et leur fils. Ils avaient perdu leur fille et lui, sa soeur. Puis chacun était inquiet de comment l'autre le vivait.
Uh-huh.
Alors, la maman le vivait en s'extériorisant, en pleurant. Le papa disait, est hystérique, j'ai peur qu'elle tombe malade. Elle est inquiète parce qu'il y avait juste une larme au coin de l'œil. Mm. Puis le fils partait en bicyclette dans les bois pour se défouler. Mm. Mais j'ai dit, les trois, vous êtes corrects.
Mais oui.
Les trois, vous le vivez, votre deuil, à votre façon.
Ouais.
Puis ils ont juste besoin d'entendre ça.
Oui, c'est ça. Et vraiment, c'est un livre rassurant à ce niveau-là, parce qu'on se dit, ah, mais alors, quand j'ai réagi comme ça, alors je fais, pourquoi certains m'ont dit, ben voyons donc, arrête, à un moment donné. Et parce que ça, faut jamais dire ça à quelqu'un, hein, un endeuillé qui a besoin de s'exprimer. Comme par exemple, moi, il y a quelque chose qui me met bleu marin quand j'entends ça, c'est quand on me dit, oh ben écoute donc, elle a arrêté de souffrir. Vous en parlez de ça aussi, hein, dans le livre.
Ça vient banaliser
oui,
ce que l'endeuillé vit.
Est en train de vivre. Mais
puis
oui.
Ça va juste l'amener à s'isoler encore plus. Parce que il se sentira pas compris.
Exactement.
Alors, c'est sûr que ça vient souvent d'un malaise que la personne autour de l'endeuillé a. Puis en même temps, l'endeuillé a aussi la responsabilité de dire à l'autre, ben ça me fait pas de bien quand tu me dis ça. Fait que plutôt que de rester isolé, il peut aussi dire à l'autre, ça me fait pas de bien.
Oui. Alors là, vous êtes là. En tant que TRA, comme on vous appelle, hein, donc thérapeute en relation d'aide, parce que ça, j'ai oublié de le dire, je vous ai présenté comme une auteure, mais vous êtes surtout une thérapeute en relation d'aide, spécifiquement sur le deuil, hein, je pense, je ne pense pas dire d'erreur. Vous travaillez avec Madame Portelance, avec l'équipe du CRAM, qui a d'ailleurs édité sur papier ce bouquin, alors que, je vais le préciser tout de suite, c'est Vues et Voix qui a produit la version audio, et au moment où je vous parle, vous pouvez d'ores et déjà retrouver les trois livres en audio sur notre site livreaudio.vuesetvoix.com. Louise Racine, je vous propose, on va parler d'acceptation. Je vous propose d'écouter un autre extrait avant de votre trilogie sur le deuil que j'ai eu la chance, honnêtement, et le grand honneur de lire.
En ce moment, devant vos pertes, le seul mot « accepter » peut vous braquer. Non, je ne peux juste pas accepter. Je suis très sensible à vous, et je comprends parfaitement votre sentiment. Il est difficile d'accepter l'inacceptable. Les choses doivent se faire à votre rythme. Exemple professionnel. Je pense à une mère qui avait perdu un enfant quelques années auparavant et que j'ai rencontrée lors d'un atelier intitulé « Vivre un deuil ». Lorsque je lui ai demandé d'apporter pour le lendemain un objet qui représentait ce sur quoi elle voulait lâcher prise, afin de favoriser l'acceptation et le laisser partir, elle m'a dit « Je ne peux pas encore accepter de laisser partir. Tout est encore intact dans la chambre de ma fille depuis 2 ans. » J'ai été touchée par la douleur du cœur d'une mère qui souffre, et je lui ai tout simplement répondu « C'est vrai que c'est très souffrant de laisser partir ta fille, et j'y suis sensible. » Ce soir-là, elle a tranquillement fait le tour de la chambre de sa fille. Elle est arrivée le lendemain avec 2 sacs verts remplis de vêtements et d'appareils médicaux, les tubes et respirateurs qui avaient maintenu sa fille en vie, et elle nous les a remis. Elle venait de commencer à laisser partir.
Oui, accepter et laisser partir et choisir la vie, ça c'est le titre du livre 2. Comment, et là je suis sûre que j'entends de là des voix qui s'élèvent, mais comment voulez-vous accepter? Comment voulez-vous laisser partir? Comment voulez-vous choisir la vie alors que je l'aimais tant et qu'il était encore là hier, comme le chantait Grégoire en ouverture tout à l'heure de cette émission? Qu'est-ce que vous leur dites? Vous commencez par quoi, Louise? Louise Racine?
Un peu ce que dans l'extrait que vous venez de lire, c'est d'abord d'être sensible à l'autre, que pour le moment, c'est difficile d'accepter puis de laisser partir. Pour le moment, c'est la personne, ce qu'elle a le plus besoin, c'est qu'elle soit acceptée là où elle est.
Oui.
C'est là que l'acceptation commence.
OK, je comprends.
Dans l'exemple, c'est ce qui est arrivé, d'accepter la personne là où elle est. Ça l'a fait, elle, commencer son processus d'acceptation. Et je dis aux gens dans les conférences que je donne, ça se peut que... Puis je m'adresse des fois là, dans des conférences de parents, là, dans des groupes. Puis je dis aux gens, ça se peut que pour vous, dans le processus de perdre votre enfant, ça va être d'accepter, de laisser partir un objet à la fois. Ça se peut que ça prenne toute une vie à laisser tout partir.
Ah oui.
Mais on y arrive.
On y arrive, c'est ça. Oui.
Un objet à la fois.
Pour aider l'endeuillé, justement, aussi, vous lui recommandez de poser des gestes. Quel type de gestes? Des lettres,
Des fois, il y a des lettres, il y a des fois, c'est des rituels où on va se regrouper, on va, je pense à quelqu'un où c'était le deuil d'une adolescente. La maman a fait venir dans la chambre ses amis. Puis, ensemble, ils ont réparti les chandails, les casquettes. Alors, pour elle, ça donnait une deuxième vie.
Ouais.
Alors, tu vois, le rituel, c'est souvent en groupe et c'est supportant. Alors, elle, ça lui a fait du bien, puis ça a fait du bien aux jeunes, ça les a rejoints, ce geste-là. Alors, ça, c'est un exemple. Les rituels, c'est très personnalisé. C'est faut que la famille se parle pour se dire qu'est-ce qui est signifiant pour nous, qu'est-ce qui nous ferait du bien de laisser partir.
Oui, surtout qu'il y en a de moins en moins de rituels religieux, tout le rituel que vous avez connu aussi au Québec, comme nous en France, il n'y a pas si longtemps, où on conservait la personne pendant 3 jours. Oui. On la voyait même, et pardon de le dire aussi crûment, mais entre guillemets, s'abîmer. Et ça faisait partie du rituel, et ça veut pas, ça nous aidait aussi à la laisser partir, parce que le fait, et ça vous en parlez aussi très bien à un moment donné, de dire qu'il est important de parler de la mort. Répétez-vous, et s'il y a des gens qui sont pas capables de vous entendre répéter ce que vous avez envie de leur dire, eh bien, fermez la porte, allez en voir d'autres, mais parlez-en. C'est essentiel pour vous, Louise Racine.
Oui, puis c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de thérapeutes spécialisés en deuil, parce que c'est vrai qu'il y a des gens autour de nous qui peuvent avoir des limites à nous entendre, puis ils ont le droit. Mais il faut trouver d'autres lieux, parce qu'autrefois, quand le corps était exposé pendant 3, 4, 5 jours, ben qu'est-ce qu'on faisait? On racontait 100 fois la même chose.
C'est ça.
On n'avait pas besoin de consulter, le deuil se faisait parce qu'on racontait. Mais là, en limitant les rituels, c'est plus court, ben ça nous prend des lieux pour s'exprimer. Alors, c'est pour ça que c'est si populaire, les groupes de soutien, les groupes de partage. Il y a de plus en plus de choses qui sont créées pour permettre aux gens d'exprimer.
Oui, parce qu'on ne nous apprend pas à vivre face à la mort. Est-ce que c'est quelque chose... On entend toujours dire qu'on devrait plus parler de sexualité dans les cours, pour les enfants, mais est-ce qu'on ne devrait pas à un moment donné aussi intégrer un chapitre sur la mort, pourquoi pas?
Je pense que c'est essentiel apprendre à bien vivre. Parce que ce que ça fait de ne pas en parler, ça crée de l'anxiété face à la mort, face au vieillissement, face à la peur de perdre. Alors, c'est sûr qu'on vivrait peut-être mieux en lien avec l'anxiété, si on rendait la mort accessible. Il y a des pays en Afrique qui n'ont pas de problème avec la mort.
Non, c'est vrai.
Ils sont très expressifs et puis ça vit de longs rituels.
Absolument. Absolument. Ouais. À la Nouvelle-Orléans, tous les jazzmen sortent et ça joue de la trompette et c'est fou dans les bons. Et justement, là, quand vous parlez, je m'étais prise une note ici, en Occident. J'aimerais que vous me répondiez à cette question-là parce que moi, j'ai beaucoup de mal à y répondre, mais enfin. Je trouve que pour beaucoup de monde ici en Occident, la mort est un échec. La mort est vue comme un échec. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par changer ce mode de pensée-là? Par exemple, il a combattu contre le cancer, il a perdu la bataille. Ça m'aurait pile. Pas vu? Parce que, je veux dire, la mort est une... Et qu'est-ce que vous voulez? Oui, c'est une fin en soi. Dès l'instant qu'on est, on sait qu'on va tous y passer. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment, ni quand. Bon, et on espère tous que ce soit le plus facilement possible, bien sûr. Mais bon, mais c'est ça, je me disais, mais comment, par exemple, pour les médecins, souvent, le concept de la mort est un concept d'échec. Alors, on prolonge la vie. On en parlait il y a quelques semaines avec le docteur Stéphane Lemire, qui est un gériatre, et je lui posais la question, je lui disais, oui, mais on rallonge la vie, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'organise pour que cette vie-là rallongée soit agréable? Je veux dire, à quoi ça sert de rester 10 ans de plus? Je ne sais pas. Enfin, vous, est-ce que vous avez un avis là-dessus, Louise Racine?
Bien, ça démontre juste comment c'est difficile d'accepter que la mort fait partie de la vie. C'est qu'on le prend comme un échec, puis c'est pas ça. C'est un processus à accepter, puis c'est beau quand les gens vivent le processus en acceptant que c'est la fin de vie. Il se passe tellement de belles choses aussi quand les gens le vivent dans l'acceptation, et ça fait du bien à l'endeuillé quand le processus se vit dans cette acceptation-là.
Oui, et au moment présent, ça veut dire ne pas s'en vouloir parce qu'encore une fois on pleure, parce qu'encore une fois ça fait mal. C'est bien ça, hein? Mais oui. Vous émaillez aussi vos livres de propos qui sont bons pour l'âme. Dites-vous, ça s'appelle bon, accueillir et nourrir le beau. Hein. Il y a un chapitre qui s'appelle comme ça. Et puis, il y a des mots. Entre autres, je me souviens, il y a la chanson de Françoise Hardy qui s'appelle L'amitié. Mm-hmm. Hein, beaucoup de mes amis sont venus des nuages mm-hmm. avec voilà et c'est très réconfortant aussi. C'est il y a cette histoire moi que j'adore que je voudrais raconter à nos auditeurs de ce bateau qui s'éloigne. Alors vous êtes deux personnes, enfin pardon si je résume un peu, mais il y a deux personnes mm-hmm. sur le quai qui le voient s'éloigner jusqu'au moment mm-hmm. où on ne le voit plus. Et là, oh mon Dieu, il n'est plus là. Oui, mais c'est toujours le même bateau, il a toujours la même coque, il a les mêmes voiles, il a tout, sauf qu'on ne le voit plus. Et qu'à ce mm-hmm. moment-là, de l'autre côté de la terre, il y a peut-être deux personnes sur le bord qui disent « Ah, mm-hmm. le voilà mm-hmm. !» Cette image-là me touche énormément.
Ah oui.
Louise Racine, je sais que vous n'êtes pas avare de donner vos coordonnées. Vous le faites à la fin de chaque livre. Et moi-même, quand je l'ai lu, j'ai précisé quelles étaient vos coordonnées parce que souvent, vous conviez vos lecteurs à vous parler, même si ce n'est pas pour suivre un atelier, une conférence, mm-hmm. mais simplement de venir à vous. Alors, est-ce qu'on peut se permettre de donner vos coordonnées en ondes en ce moment, aujourd'hui?
Oui, bien sûr.
Alors, je vais leur donner votre courriel. C'est simplement Louise, comme vous signez chacune de vos lettres, parce qu'il y a ça aussi. Vous, mm-hmm. vous envoyez une lettre à chaque endeuillé et vous n'oubliez personne. Les parents, mm-hmm. les grands-parents, les tout le monde, en tout cas. Mm-hmm. Alors, vous signez donc Louise, @ Louise Racine, tout ça comme ça se prononce en minuscule, .com.
Clotilde, je vais le changer. Je m'excuse parce que mes livres, ça fait quelques années qu'ils sont sortis.
Ah! Bon, alors allez-y, Louise, oui. Alors, je vous laisse faire.
louise001@hotmail.ca.
Oh, mais alors, ça veut dire que dans le livre, ce n'est pas la bonne adresse que j'ai donnée. Ben, écoutez, j'imagine qu'ils pourront vous joindre par le CRAM.
Oui, c'est sûr. Hein? Mais je les reçois quand même, mais c'est plus simple d'aller directement.
Ah, d'accord. Bon, mm-hmm. bon. Alors, je voudrais préciser donc à nos auditeurs qui viendraient peut-être juste de se joindre à nous que je recevais Louise Racine, qui a écrit une véritable autopsie de la mort et surtout du deuil. Comment on passe à travers? Comment on accepte tout ça? C'est en trois tomes. Le deuil, une blessure relationnelle. Le deuxième, c'est le deuil, accepter, laisser partir et choisir la vie. Et le troisième, c'est le livre de la Renaissance. C'est renaître et créer sa vie. Vous êtes également conférencière. Vous animez des ateliers également pour le CRAM. C'est bien ça? Des formations aussi?
Oui, j'anime des formations pour des gens qui veulent tout simplement s'initier à l'accompagnement du deuil parce que ça peut leur servir dans le domaine où ils sont. Il y a 5 journées qui sont vraiment intéressantes à vivre en relation de groupe. Je donne le certificat d'accompagnement sur le deuil pour ceux qui sont thérapeutes au CRAM.
D'accord. OK.
Et puis, on a un atelier au public à toutes les années. Cette année, trois fois, il va se donner un 2 jours vivre un deuil pour le public.
Merci beaucoup, Louise Racine, et bravo pour ces 3 livres sur le deuil. Merci, Louise.
Merci à vous, Clotilde.
Au revoir.
Au revoir.
Des livres pleins les oreilles. La suite. Alors, en seconde partie, d'abord, bonjour à vous toutes et vous tous. Si vous venez juste de vous joindre à nous, c'est Clotilde Seille au micro de Canal M. Je vais me tourner d'ici quelques secondes vers Faline Beaubier à Toronto, qui travaille notamment avec une clientèle à besoins spécifiques. Je parle des personnes non ou malvoyantes et qui nous propose quelques nouveautés accessibles en audio et en français via CAEB. On écoutera des extraits de livres en nomination au prix Audiolib 2020, un vrai régal pour les oreilles et autre régal pour les oreilles, un hommage à Frédéric Dard, alias San Antonio, et pas moins de 58 bouquins qu'on trouve sur les plateformes en vente de livres audio. On n'écoutera pas les 58, mais quand même. Et je me tourne tout de suite vers Faline Beaubier. Bonjour Faline.
Bonjour, ça va?
Ça va très très bien, ravie de vous accueillir une nouvelle fois pour nous parler de quelques nouveautés que les personnes non ou malvoyantes peuvent aller se télécharger absolument gratuitement via CAEB et des personnes avec qui vous travaillez directement, hein? Faline,
oui,
c'est bien
oui,
ça.
Oui.
Mmh. Alors, je voudrais qu'on parle d'un premier livre, c'est « Deux femmes dans la tourmente » de Teresa Messineo.
OK, très bien. Alors, les livres que j'ai choisis par hasard un peu ont un peu le même thème qui est, si je peux dire, la condition féminine.
Bravo.
Donc, ce premier livre, ça se passe à l'époque de la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
C'est l'histoire de deux amies infirmières, Joe et Kay, c'est les personnages principaux. Ils se rencontrent à New York au cours de leurs études d'infirmière à la fin des années 30. Et elles sont désireuses de partir à l'aventure, donc elles s'engagent aux côtés des alliés. Et mm-hmm. c'est là que leurs chemins vont se séparer. Donc, Joe est envoyée sur le front de l'Ouest en France, où elle doit superviser un hôpital de fortune. Et Kay, par contre, est envoyée à Hawaï. Au début, ça semble être un peu idyllique sur les plages de sable blanc, mais il y a l'attaque de Pearl Harbor qui va signer pour elle le début du cauchemar parce qu'elle va devenir prisonnière des Japonais. Elle est déportée dans un camp à Manille. Donc, tout au long du livre, ça va alterner entre l'histoire de Joe et l'histoire de Kay.
OK. Ouais. Ben non, allez-y. Pardon, je vous ai interrompu peut-être.
Non.
OK, mais est-ce qu'elles vont se retrouver quelques années plus tard?
Ça,
faut pas le dire. OK.
Oui,
j'ai posé la mauvaise question. Merci beaucoup, Faline. Vous avez bien raison. Je voudrais aussi que vous nous parliez. Ça me semble aussi très intéressant. Le crime de Sœur Marie Hosanna de Claire Bergeron.
Oui, ça aussi, je trouvais ça un livre très intéressant. Et comme j'ai dit, ça porte un peu sur le même thème. C'est-à-dire, ça commence à l'automne 1910. Mm-hmm. Donc, c'est un peu l'époque où les femmes vivaient un peu dans l'ombre de leur mari ou de leur père et ne comptaient guère dans les grandes décisions familiales et sociales. Donc, personnage principal, c'est Ophélie, qui a 15 ans. Lorsque son père, qui est un éminent juge montréalais, va la confier au monastère des Augustines à Québec. Et selon lui, selon le père, elle a commis une faute qui dépasse l'entendement. Donc, pour elle, c'est ou bien le cloître ou la prison. Donc, elle est un peu abandonnée dans le silence. Mais elle va devenir, elle aussi, religieuse infirmière, donc elle parvient à donner un certain sens à sa vie. Mais l'histoire, c'est vraiment sa rencontre avec une de ses patientes qui est prostituée. Donc, c'est un peu l'histoire de comment Ophélie va trouver un peu sa liberté, parce qu'elle va organiser en secret sa fuite du cloître, pour partir avec Margot. Donc, elles vont aboutir en Abitibi. Mm-hmm. Et c'est vraiment là qu'elle va découvrir non seulement l'amour, mais un peu la liberté.
Donc, oui, parce que ça commençait mal pour elle, mettons, avec un père comme ça. Bon, le cloître, enfin bon, là, c'est pas le cloître, mais enfin, ça lui ressemble quand même beaucoup. On pourrait peut-être en écouter un petit extrait. Qu'en pensez-vous? On va se rendre compte que c'était pas rose. Dans mes souvenirs, on est au procès de la jeune fille.
Ah, OK, très bien.
Debout, la tête haute, Ophélie baissa les paupières. Une larme impossible à retenir roula sur sa joue rebondie, dessinant un sillon humide qui brilla tristement dans la lueur du soleil couchant. « Cet enfant n'a que 15 ans, nota Sœur Sainte Marie des Anges en l'observant du coin de l'œil. L'horreur de ce qu'elle a fait n'a pas d'âge, cracha le juge Aristide Martel, son père. Sans entrer dans les détails sordides, je vous ai raconté notre histoire, que vous devrez garder secrète, bien entendu. Dorénavant, ma fille sera sous votre tutelle. L'adolescence est une étape difficile de la vie. Les actes commis dans les désordres émotifs de cette période ne sont pas nécessairement garants de l'avenir. plaida la religieuse en faveur de la jeune fille. Bien encadrée, mademoiselle peut se racheter et, un jour, évoluer de nouveau normalement en société.
Oui, c'était vraiment une époque où, de toute façon, on prenait la vie des jeunes filles en main, on ne s'intéressait pas du tout, on se disait, de toute façon, elle sera, elle, incapable de le faire, quoi qu'il arrive, quoi.
Oui, je pense que ce que je trouve bien dans ce livre, c'est vraiment que ça rappelle une époque qui était hantée dans un sens par le pouvoir de la religion et contrôlée par le pouvoir des hommes. Donc, c'est un peu les deux.
Exactement.
Pour moi, ouais. Ouais, mais c'est très bien écrit.
Alors, des femmes qui ont marqué leur époque, non seulement le milieu culturel, mais le milieu politique aussi, le milieu, le Québec, hein, vraiment de partout, c'est les sœurs McGarrigal, mais la famille McGarrigal au complet. Et là, vous nous arrivez donc avec ce livre qui traite un petit peu de la genèse de, par exemple, je pense, hein, de ce qu'on... je vais finir par le dire, de Kate et Rufus, comment ils en sont arrivés là, comment leur mère, elles-mêmes ont été élevées, etc., etc. Est-ce que c'est bien ça, entre la jeunesse et la sagesse, l'album de famille des sœurs McGarrigal? Et pardon pour avoir bafouillé autant.
Oui, et c'est surtout, comme vous avez dit, c'est aussi l'histoire de leur famille.
Oui.
On apprend des aventures de leurs ancêtres qui habitaient à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, et ensuite, elles ont grandi à Saint-Sauveur. Donc, on voit aussi leur adolescence tumultueuse dans le Québec des années 50.
Mm-hmm.
Elles nous entraînent à Montréal, à New York, à San Francisco, sur les scènes bigarrées de la musique folk des années 60.
Mm-hmm.
Et évidemment, on parle de l'inoubliable duo formé par Kate et Anna McGarrigal.
Mm.
C'est aussi, dans un sens, un hommage à Kate, je pense, parce qu'elle est décédée en 2010.
Ça fait pas déjà 10 ans que Kate est décédée.
Et j'ai trouvé un commentaire de Charlebois, Robert Charlebois, que j'ai trouvé apte. Il disait, en parlant du livre et aussi en parlant des sœurs McGarrigal, Kate et Anna McGarrigal habitaient Saint-Sauveur, mais c'est dans le vieux Montréal qu'on a eu nos premiers éclats de rire autour d'un piano et d'une guitare. C'est un bonheur de faire partie de cette famille où règne l'amour de la musique.
Oui, absolument. J'ai aussi un petit extrait qu'on pourrait écouter de ce livre-là, Entre la jeunesse et la sagesse, l'album de famille des sœurs McGarrigal.
Malgré le décès de leur mère et les fréquentes absences de leur père, les enfants McGarrigal ont vécu entourés de l'amour des membres de leur famille. On les encourageait à développer leur talent pour la musique, et ils se produisaient régulièrement dans des comédies musicales et des opérettes présentées à l'église. Jim et Anna, qui avaient tous deux reçu une certaine formation, ont plus particulièrement marqué la mémoire de leurs contemporains. 100 ans plus tard, avec du recul, on pardonne difficilement l'insouciance de James McGarrigal. D'ailleurs, sa demi-sœur Mame et son fils aîné Jim se sont éloignés de lui avec le temps. Il semble que Jim suivait le droit chemin et désapprouvait vivement, tout comme tante Mame, le penchant de son père pour la bouteille. On raconte que Jim traversait la rue pour l'éviter quand il le voyait se diriger vers lui. Les McGarrigal étaient des gens rêveurs, intelligents et attachants. Passablement instruits, ils avaient des talents musicaux, ils adoraient rire, et on les fréquentait avec plaisir, mais ils ont aussi connu la tristesse. Les enfants, dispersés dans leur jeune âge, ne se sont jamais vraiment retrouvés par la suite.
Alors, je précise que la musique ne fait pas partie de cet enregistrement, hein, de Caeb. Moi, je l'ai un petit peu enrobé parce que je trouvais sympa qu'on puisse réentendre, entre autres, Kate et Anna chanter qui se baladaient sur Sainte-Catherine. Voilà.
Oui, je les ai vus en spectacle.
Oui.
Ça fait longtemps à Edmonton, en Alberta. Et J'ai toujours aimé leur musique et surtout le mélange d'anglais et de français.
Oui, oui.
Donc, si les auditeurs ne les connaissent pas, ça vaut la peine de,
oui.
d'écouter leur musique.
Oui, absolument. Puis, je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai choisi aussi, et parce que moi-même, je ne connaissais pas cette version-là, j'ai choisi pour clore notre chronique une chanson qui s'appelle « Mendocino ».
Et c'est j'adore cette chanson.
Bon, c'est Anna McGarrigal qui est au piano et on va entendre les voix de Martha et Rufus Wainwright. Je voudrais vous remercier beaucoup, 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 Faline, pour cette participation régulière à l'émission des Livres Pleins les Oreilles. On ne veut pas oublier qu'il y a des personnes qui n'ont plus accès à l'imprimé et eux, ils n'ont pas d'autre choix que de faire confiance aux livres audio. Alors, merci à Caleb et à ce que vous faites, Faline.
Ah, ça nous fait plaisir. Merci, Clotilde.
Bonne fin de journée.
Oui, vous aussi.
Jusqu'au bout de la résonance. Si on a un parmi vous là, en ce moment qui n'a pas les poils dressés comme les miens sont dressés des pieds à la tête, ça c'est terrible. Quelle voix ils ont ces deux-là. Bon, alors voilà, nous évoquions le livre Entre la jeunesse et la sagesse, l'album de famille des sœurs McGarrigle, qui est disponible en version audio, accessible pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes via CAEB. Alors, on change complètement de sujet, mes amis. On s'en va vers Frédéric Dard. Qui est Frédéric Dard? San Antonio, ça doit vous dire déjà un petit peu plus. Figurez-vous qu'en France, la Poste a décidé de mettre à l'honneur Frédéric Dard à l'occasion du 20e anniversaire de sa disparition. L'écrivain français, principalement connu pour les aventures du commissaire San Antonio, était né en 1921, un 29 juin, en Isère. Et il était né à l'étage situé au-dessus d'un bureau de poste, ce qui, selon ses dires, le prédestinait à une carrière dans les lettres. Alors, il y a eu Boris Vian, il y a eu René Guy Cadou, il y a eu André Chédide. Et bien, c'est au tour de Frédéric Dard d'avoir droit à son timbre. C'est un timbre qui sera tiré en tout à 700 000 exemplaires en France. Il a été mis en vente à partir du 15 juin. Dernier, dans certains bureaux de poste, pas tous, mais dans la plupart des bureaux de poste. Un petit rappel sur Frédéric Dard, c'est un type qui est né d'une famille modeste, mais très très tôt, il manifeste un goût immodéré pour la lecture notamment. Il a été influencé par des auteurs comme Georges Simenon ou comme Céline. Et puis un jour, il publie son premier livre qui s'appelait « La Peuchère », c'était en 1940. Il était ce qu'on appelle un touche-à-tout littéraire et il s'est frotté sous des noms absolument incroyables et des pseudonymes complètement farfelus à une multitude de genres, du roman populaire au conte pour enfants, oui, au conte pour enfants, en passant par l'écriture théâtrale ou par les adaptations radiophoniques, sans oublier les scénarii pour le petit et pour le grand écran. Mais sa carrière va connaître un tournant phénoménal en 1949. Ça, c'est la date de publication de Réglez-lui son compte, premier titre d'une série de plus de 180 livres mettant en scène le commissaire San Antonio. Une saga, ce sera un raz-de-marée littéraire, et ça va transcender absolument tous les lectorats. 4 titres par an. À raison de 4 titres par an, Frédéric Dard a créé un personnage pseudonyme qui est maintenant entré au panthéon des héros populaires. Véritable phénomène unique de la littérature française du XXe siècle. Et Frédéric Dard a publié près de 300 livres, vendus à plus de 250 millions d'exemplaires et traduits en plus de 35 langues. En audio, il y en a 58 enregistrés. C'est donc pas la totale, mais c'est déjà pas mal. Alors, je vous ai préparé une petite synthèse de quelques livres et quelques extraits qu'on peut trouver sur la plupart des plateformes dignes de ce nom. Malheureusement, pas encore à vue et voix, mais j'aurais bien aimé ça. Mais toutes les autres, vous les connaissez, Audible, Kobo, Apple et compagnie, vous allez trouver San Antonio. Extrait.
Collection Polar, Frédéric Dard. Voté Berrurier.
L'interpellé s'empara d'une fibre optique et l'introduisit tant mal que bien dans le rectum bondé du patient. Au bout d'un instant d'examen, il s'écria « Ah ! Seigneur !»« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Maquebasse. « L'on dirait la tour Eiffel, monsieur le professeur. » Le mandarin cuirassé éclata de rire. « Que me sentez-vous là ? Vérifiez donc, vous, Herbert. » Tandis que le second assistant prenait la place de son coéquipier à l'œilleton du périscope, il se laissa enfiler ses gants par la jolie rousse qui lui coulait des regards salaces. « Alors ? » jeta-t-il au second assistant. Ce dernier, un blond tirant sur le blanc, continua d'examiner la chose avant de répondre. Il releva enfin la tête et déclara catégoriquement « C'est bien la tour Eiffel, monsieur le professeur, et il neige. »
Si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Roger Perfitte, de l'Académie française, par cousin interposé. Ses premiers, du genre cauchemar. Je regarde tomber la pluie. Plus exactement, je regarde son ruissellement le long des façades de granit. De toute beauté. Chiant, mais noble. Le granit, franchement, c'est payant pour le noir et blanc. Évidemment, si tu préfères tourner en couleur, vaut mieux filmer une corrida.
Collection Polar, Frédéric Dard, La rate au courbouillon.
Et pouvez-vous croire qu'il n'y a pas deux expressions pareilles? Parce que c'était le roi de l'expression et il n'y en avait pas deux pareilles. Ah, 20 ans qu'il est mort le bonhomme. Enfin bon. Allez, les amis, vous savez que tous les ans, cette émission est consacrée des livres pleins les oreilles aux livres audio. Alors, fatalement, je reviens chaque année avec les prix Audiolib. Là, cette fois-ci, donc, ce seront les prix Audiolib 2020. Audiolib, c'est une maison de production de livres audio en France. Ils en font aussi beaucoup. Alors, ils ont la chance d'avoir leur prix. Et cette année, il y en a, au départ, il y avait 10 livres qui étaient mis en liste. Sur les 10, il en reste 5. Qui sont donc en nomination. Et je vous ai choisi parmi les 5, et bien 3 dont je n'avais jamais parlé à cette émission-là. On va commencer par « Né d'aucune femme » de Franck Bouys, lu par Cachou Kirsch et Simon Dupré. Il est question d'un... Nous sommes dans un confessionnal, ça commence comme ça, et on confie au père Gabriel une mission qui serait de récupérer à l'asile voisin sous la jupe d'une femme dont il doit bénir le corps, de mystérieux cahiers. Bon, c'est ainsi que sortent de l'ombre les carnets de la jeune Rose, ceux dans lesquels elle a conté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin. Encore une qui n'a pas connu une enfance très rose, née d'aucune femme.
Je venais d'avoir 14 ans. Je vivais à la ferme avec mon père, ma mère et mes 3 sœurs. Les Landes, que ça s'appelait. D'ailleurs, ça doit bien toujours s'appeler pareil, étant donné que les endroits changent pas facilement de nom, même quand les gens s'en vont. On était 4 filles, nées à 1 an d'écart. J'étais l'aînée. Les filles valent pas grand-chose pour des paysans. En tout cas, pas ce que des parents attendent pour faire marcher une ferme, vu qu'il faut des bras et entre les jambes de quoi donner son nom au temps qui passe. Et moi et mes sœurs, on n'a jamais rien eu de ce genre entre nos jambes. Si j'ai pas entendu 1000 fois mon père dire que les filles c'est la ruine d'une maison, je l'ai pas entendu une seule. Il se cachait même pas de nous 4 pour le dire bien fort, comme si on était seuls responsables du malheur qui lui pesait. Nous, ses propres filles, fabriquées avec son propre sang et celui de ma mère, qui écoutait en tordant le nez, mais qui disait jamais rien. Qui a jamais tenté de le contredire, ou alors si c'est arrivé un jour, j'étais pas là.
C'est fou, hein. En France, ils disent les filles, pour les filles. Ça dépend des régions, mais il y a des régions, comme vous venez de l'entendre, ils disent les filles. Bon, l'homme qui savait la langue des serpents, ça c'est né de l'esprit franchement délirant d'Andrus Kivirek. C'est un roman qui retrace dans une espèce d'époque médiévale réinventée la vie, ma foi, peu banale d'un jeune homme qui, vivant dans la forêt, voit le monde de ses ancêtres disparaître et la modernité l'emporter. Et cet homme-là, effectivement, est capable de parler la langue des serpents.
Finalement, nous débouchâmes dans un grand terrier. Ce qu'il y avait comme serpents là-dedans. En majorité des petits, des ordinaires, mais aussi une douzaine de vipères royales, toutes arborant fièrement leurs couronnes comme des tresses dorées d'églantines. La plus grande était sans aucun doute le père d'Int, qui conta notre aventure à une telle vitesse que je ne saisis pas grand-chose à ses sifflements. Le grand reptile me dévisagea et rampa dans ma direction. Je fis la révérence et prononçai les formules de politesse que mon oncle m'avait enseignées. « J'ai bien peur, mon garçon, que tu ne sois le dernier humain que j'entendrai siffler de la sorte. Les hommes se désintéressent de notre langue. Ils rêvent d'une autre vie. Ton oncle est mon ami. Je suis heureux de voir qu'il s'est trouvé un disciple. Tu seras toujours le bienvenu dans notre terrier, surtout depuis que tu as sauvé la vie de mon enfant. Les hérissons sont notre plus grand fléau, des incultes, des têtes de bois. »
L'homme qui savait la langue des serpents d'Andrus Kivirek, lu par Emmanuel de Koninck. Un autre livre qui n'est pas banal, qui a été considéré depuis sa sortie comme un véritable choc littéraire. C'était sorti en juillet 2019, c'est maintenant en audio, ça s'appelle « Dans la forêt ». La civilisation vient de s'effondrer. Et les parents de deux jeunes filles disparaissent avec bien d'autres. Elles sont bien décidées à survivre face à l'inconnu, mais évidemment, il va leur falloir à apprendre à grandir autrement et à vivre leur passion autrement. Il y en a une qui est entre autres passionnée de lecture. Alors on va suivre dans la forêt, dans ce roman sensuel et puissant, ces deux jeunes femmes qui vont entraîner le lecteur vers une vie nouvelle.
Hormis une sortie rapide ce matin pour aller chercher du bois et ouvrir le poulailler afin que Bathsheba, Lilith et Pinky grattent le sol détrempé de la cour, nous n'avons pas mis le nez dehors. Dire que Noël, c'était hier. Sans ce cahier et le fait qu'Eva a disparu dans son studio dès l'aube, personne ne l'aurait su. « Tu vas user de nouveau ses chaussons en un jour », lui ai-je dit quand elle est revenue à midi. « Je sais. » Elle a écarté de sa poitrine son t-shirt trempé de sueur, a bu un autre grand verre de l'eau qui s'accumule goutte à goutte dans l'évier de la cuisine. Puis elle est retournée prestement dans son studio sans un mot. Même maintenant, Eva peut user les choses jusqu'au bout. Moi, je veux tout garder, tout consommer à petite dose indéfiniment. Je peux faire durer 12 raisins secs ou un vieux sucre d'orge d'un centimètre et demi une soirée entière. Prolonger le plaisir comme si c'était une personne âgée qu'on promène dans sa chaise roulante sous le soleil hivernal. Mais Eva continue d'engloutir.
Ça s'appelle « Dans la forêt », c'est de Jean Eglend, c'est lu par Maya Baran. Et c'est donc un livre que vous retrouvez chez Audiolib, mais c'est aussi un livre qui se retrouve en nomination, ainsi que les deux autres que je vous ai présentés pour les prix Audiolib 2020. Voilà ce qui vient conclure cette émission des Livres plein les oreilles. C'était Clotilde Say qui voudrait remercier Louise Racine, son invitée de la première partie, qui voudrait aussi remercier en régie aujourd'hui Jean-Sébastien Laliberté. Bonne lecture tout le monde et surtout bon livre audio. Salut.